Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Je vous raconte une enquête sur un assassinat commis en décembre 2012 à Val d'Isée en Ille-et-Vilaine. L'assassinat d'Aurélie Beaugendre. Une heure après, on pense avoir arrêté le coupable. Mais il faudra beaucoup plus de temps que ça pour le confondre. Une affaire que je débrieferai tout à l'heure avec l'avocat rennais William Pinault. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Audouard. Réalisation Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
La première scène de cette histoire est terrible, bouleversante. On est à Val d'Isée, en Ille-et-Vilaine, un matin de décembre 2012, quelques jours avant Noël, chez Aurélie Beaugendre, 29 ans, fraîchement séparée de son mari, qui vit là seule avec ses trois enfants de 4, 8 et 10 ans. Il est 8 heures passées, les gosses sont dans leur lit. Normalement, à cette heure-là, leur mère aurait dû venir les réveiller, comme elle le fait tous les matins. Mais elle ne vient pas. Alors depuis leur plumard, les gamins l'appellent.
« Maman ! Maman ! »
Et comme elle ne leur répond pas, ils finissent par descendre tout seuls au rez-de-chaussée et dans l'arrière-cuisine. Ils tombent sur elle, couchée sur le sol, la tête dans une mare de sang. Les gamins enfilent alors leurs bottes, ils enjambent le corps de leur mère et ils se précipitent chez la voisine pour la prévenir. Et la voisine baisse les yeux. Ils ont été obligés de marcher dans le sang de leur mère. Ils en ont plein les bottes. La voisine immédiatement va sur place. Elle appelle les pompiers, mais ça ne sert pas à grand-chose. Aurélie Beaugendre est morte. C'est trop tard. Les gendarmes arrivent. Les premières constatations sont assez aisées. Elle a été tuée d'une balle dans la tête. Une seule. Qui a fait un énorme trou au niveau de l'œil droit.
Et t'as vu ce qu'elle a dans la main? Une cigarette, à peine allumée. Elle a été tuée alors qu'elle venait de l'allumer. Et là, tiens, il y a un briquet.
Là-dessus, la mère d'Aurélie, Marie-Christine, débarque. C'est la grand-mère des petits. C'est un cauchemar. Ces trois petits-enfants viennent de perdre leur mère à 4 jours de Noël. Et elle, d'entrée, dès le début, dès que les gendarmes lui disent « Votre fille a été assassinée », elle a sa petite idée. Et elle la leur livre telle qu'elle, brute de décoffrage.
Ben moi, je sais qui l'a tuée. C'est Sébastien, c'est son ex-mari. Il n'y a que lui qui a pu faire ça.
Qu'est-ce qui vous fait penser ça, madame?
Elle avait sa cigarette à la main, n'est-ce pas? C'est la preuve que celui qui l'a tuée connaissait ses habitudes. Aurélie, tous les matins, quand elle se levait, vers 6 heures, elle allait fumer sa cigarette sur le pas de la porte de son arrière-cuisine. Tous les matins, pendant que son café coulait, comme un rituel. Celui qui l'a tué savait ça. Et Sébastien, son ex, le savait bien sûr.
Oui. Enfin, Sébastien, ou un autre. Quelqu'un qui, en tout cas, connaissait ses habitudes.
Elle n'avait pas d'ennemi, Aurélie. Elle n'avait qu'un seul ennemi. Son mari, Sébastien.
Et là, vous vous dites... Histoire sans intérêt, puisqu'on connaît le meurtrier dès le début. Enfin, qu'est-ce qui lui prend, Ondelat? Il est tombé sur la tête. Il n'y a plus d'histoire intéressante à raconter. Méfiez-vous des évidences. En attendant, explorons donc la piste de l'ex. 10 ans de mariage, 12 ans de relation au total. Aurélie et Sébastien se sont rencontrés quand elle avait 17 ans et lui 24. Un coup de foudre, dans un bar. Et un premier enfant qui vient assez vite. Et dans la foulée, 2 autres.
Et à partir de quand est-ce que ça s'est dégradé, madame?
Quand il est tombé en arrêt maladie. Il avait des problèmes de dos et comme il était mécanicien, Il pouvait plus travailler, quoi. Il s'est retrouvé en arrêt maladie de longue durée. Et là, il a complètement perdu les pédales. Il est devenu accro aux jeux vidéo. Il s'est mis à vivre la nuit, à dormir le jour. Il faisait plus du tout attention à elle, et aux enfants. C'était un cauchemar, je vous jure. Rendez-vous compte à la fin. Il mangeait même plus avec sa femme et ses enfants. Les collègues d'Aurélie racontent qu'à cette époque-là, ils l'ont vue plusieurs fois arriver en pleurs au travail. Elle bossait dans une déchetterie, jusqu'à ce qu'elle décide de quitter Sébastien. Et elle a fini par demander le divorce en juillet 2012, c'est-à-dire 6 mois avant d'être tuée. D'après ce qu'on sait, la séparation n'a pas été simple non plus. Il a voulu récupérer la garde des enfants.
Et du coup, il est entré en guerre avec elle. C'était horrible. Elle se sentait tout le temps menacée. Un jour, elle est allée chercher les gamins à l'école, il était là. Il l'a suivie jusqu'à chez elle. Et quand il est arrivé chez elle, il lui disait « Tu vas crever, tu vas crever ». Il a ramassé des pierres, ouais. Il lui a jeté des pierres dessus.
Ah ouais. Et donc la mère d'Aurélie n'a pas tort, Sébastien est à juste titre le suspect numéro un de ce meurtre. Son mobile serait de récupérer la garde des enfants. Il n'a pas trouvé meilleur moyen que de buter leur mère. Misérable. Et donc les gendarmes décident d'aller l'interpeller tout de suite, chez lui, dans les heures qui suivent la découverte du meurtre d'Aurélie. Quand ils arrivent, vers 11h, il n'est pas là. Alors ils l'attendent. Il arrive une demi-heure plus tard, plutôt serein, détendu. La première tâche des gendarmes est de lui annoncer la mort de sa femme. Ils sont en instance de divorce, mais à l'état civil, ils sont toujours mariés. Ce sera l'occasion d'observer sa réaction.
Monsieur Beaugendre, voilà, nous venons vous voir parce que il est arrivé quelque chose de grave à votre femme. Nous l'avons retrouvée morte.
Et là, il devient blême. Il s'effondre. Il doit se raccrocher à un muret pour ne pas tomber. Et juste après, il dit aux gendarmes, à mi-voix,
« C'est pas moi, hein ?»
Étonnant, ça. On ne lui a rien demandé. On ne l'accuse de rien. Et il dit tout de suite, « C'est pas moi. » Avant de l'emmener, les gendarmes commencent par une perquisition. Ils fouillent d'abord sa voiture. Et dans le coffre, il tombe sur une arme. Un pistolet de calibre 9 mm et des munitions. L'arme du crime. Ensuite, les gendarmes fouillent sa maison et ils tombent sur une drôle de lettre adressée à Aurélie, mais qu'il n'a pas postée. À présent, je te déteste, qu'on réalise sur toi ma vengeance, toi que j'ai aimé et qui m'a trahi. Saisissant. C'est lui, donc. Entre l'arme, la lettre et les accusations de sa belle-mère, il n'y a plus beaucoup de doute.
Monsieur Beaugendre, vous pouvez me tendre vos mains, s'il vous plaît? Voilà, d'abord la droite. Merci. Tendez-moi la main gauche maintenant. Voilà.
Les gendarmes font des prélèvements sur ses deux mains. Ils cherchent des résidus de poudre. Quelqu'un qui a tiré quelques heures plus tôt, même s'il s'est lavé les mains, hein, a toujours des résidus sur les mains et les avant-bras et les manches de ses vêtements. Résultat, positif. Il est cuit. Il est midi et cette enquête a été bouclée en 3 heures. Mais vous qui me connaissez, hein, c'est mon truc, les enquêtes bouclées en 3 heures. Ça mérite d'être raconté, une enquête aussi facile. Patience. Pour l'instant, le monsieur est placé en garde à vue. Et s'il avoue, alors, je vous présenterai mes plus plates excuses. Sébastien Beaugendre est emmené dans les bureaux de la section de recherche de Rennes.
Monsieur Beaugendre, votre femme a été tuée par balle. Et on trouve justement un pistolet 9 mm dans votre voiture.
Vous avez une explication?
Bah, si, oui, j'en ai une, ouais. Enfin, j'ai été victime de plusieurs tentatives de cambriolage. Le dernier remonte au week-end dernier. C'est pas la première fois, hein. Alors, ben, j'ai décidé de me procurer un pistolet, mais c'est un pistolet d'alarme, hein, de toute façon, c'est pas une vraie arme. Ça ressemble à une vraie arme, mais c'est pas une vraie arme. Je l'ai acheté ce matin, mais à Rennes, et dans une armurerie.
Ça ne va pas être difficile à vérifier.
Monsieur Beaugendre, expliquez-nous alors pourquoi on trouve des traces de poudre sur vos mains, hein, qui est le signe incontestable que vous avez tiré, avec une arme, dans les heures qui précèdent la mort de votre femme. Je vous écoute. Bah, ce matin, je suis allé acheter mon pistolet, puis bah, je suis allé l'essayer, sur un parking. C'est pour ça que j'ai des traces de poudre sur les mains.
Et il dit sur quel parking? Et les gendarmes vont voir, et à l'endroit où il dit qu'il a tiré, il trouve effectivement une douille de 9 mm percutée. Et ils vont aussi voir l'armurier de Rennes, qui confirme qu'il lui a vendu le pistolet après le meurtre. Vous voyez? Je suis pas devenu neuneux. C'est une affaire beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Et puis, une voisine vient le dédouaner à son tour.
Sébastien Beaugendre? Il n'a pas pu faire ça. C'est un super père, attentionné. Il aurait pas fait ça à ses gosses. Ben, tenez, pas plus tard que dimanche dernier. Mes gamins sont allés jouer avec les siens chez lui. Il leur a fait fabriquer des madeleines au citron. Oh non, je le vois pas du tout tuer sa femme.
D'après les résultats de l'autopsie, Aurélie Beaugendre est morte entre 5h30 et 7h30 du matin.
Où étiez-vous, monsieur Beaugendre, à cette heure-là? Ben, j'étais chez moi. Quelqu'un peut en attester? Ben, non.
Et donc, au final, la juge d'instruction fait le bilan. Il y a cette lettre. Je te déteste, qu'on réalise sur toi ma vengeance. Il n'a pas d'alibi non plus à l'heure du crime. Bien sûr, il y a ce pistolet d'alarme qui n'est pas l'arme du crime. Mais il a pu l'acheter à dessein après le meurtre pour brouiller les pistes. Et donc, à l'issue de sa garde à vue, Sébastien Beaugendre est mis en examen pour meurtre et écroué à la prison de Rennes, où il entame immédiatement une grève de la faim. Il dit qu'il est innocent. Des psychiatres l'examinent. Il détecte immédiatement chez lui un risque élevé de suicide. Il est alors interné en psychiatrie. Mais à tous, il répète.
Je suis innocent. J'ai pas tué ma femme.
Deux mois plus tard, un employé du tribunal de Rennes trouve une enveloppe posée sur un banc, avec écrit dessus « à remettre à la juge d'instruction qui instruit le dossier Beaugendre ». L'employé la porte tout de suite à la juge, qu'il l'ouvre. La lettre est signée d'une certaine Madame G. Je vous la lis. « C'est moi qui ai tué Madame Beaugendre, Aurélie. Le 20 décembre 2012, je me suis présenté à son domicile. À 6h10, elle a ouvert la porte de la maison avec une cigarette à la main. » Et j'ai tiré d'une distance d'1,50 m environ. A priori, on peut se dire, c'est un délire. Mais ce corbeau donne des détails sur le meurtre qui ne sont pas parus dans la presse. Le fait qu'Aurélie fumait une cigarette, par exemple, quand elle a été tuée, ça n'est pas public. Et puis l'horaire, ça colle avec les constatations du légiste. Et puis la distance de tir, 1,50 m, ça colle aussi. C'est très troublant, très troublant. Et c'est encore plus troublant quand les gendarmes interrogent le fils aîné d'Aurélie, 10 ans.
Moi, ce matin-là, quand j'étais encore dans mon lit, eh ben, j'ai entendu une femme crier en bas. Elle criait « Tu vas crever ».
Il était quelle heure?
Je me souviens, j'ai regardé mon réveil, il était 6 heures. Et après, j'ai entendu ma maman crier. Mais j'ai pas osé aller voir. Et après, je me suis rendormi.
Thank you. Les gendarmes se mettent alors, avec précaution, sur la piste d'une femme meurtrière. Ils cherchent une femme qui avait des comptes à régler avec Aurélie. Et ils commencent par interroger sa mère, Marie-Christine, toujours très bavarde.
Je sais pas trop quoi vous dire, mais je sais que depuis sa séparation avec Sébastien, Aurélie avait rencontré un autre homme, enfin un collègue de travail, je crois qu'il est venu dîner chez elle un soir. Elle m'a dit qu'elle l'avait trouvé très gentil.
Autrement dit, on découvre qu'Aurélie avait un amant. Ce que confirme d'ailleurs l'examen de son téléphone portable, il s'appelait beaucoup et s'envoyait des SMS du genre « C'est juste pour te dire que je t'aime et que tu me manques, bisous ». Or cet amant est marié. Est-ce que ça n'est pas sa femme, la meurtrière, la vengeance d'une femme bafouée? Cette femme est convoquée à la gendarmerie.
Est-ce que vous connaissiez Aurélie Beaugendre, madame?
Ben non, je la connaissais pas. Mais mon mari m'a dit qu'il avait une collègue qui était décédée. J'ai appris son existence le jour de son décès, quoi.
Est-ce que vous pensez que votre mari a pu avoir avec elle une relation extra-conjugale?
Vous savez, il en a déjà eu. Il m'a trompé quand j'étais enceinte de ma fille. Mais là, non. Enfin, je pense pas qu'il ait pu me tromper une autre fois.
On vérifie la localisation de son téléphone portable le matin du crime. Cette dame était chez elle. A priori donc, elle n'est pas Madame G. Mais cette Madame G existe-t-elle vraiment? Elle se manifeste à nouveau, en tout cas. 2 mois après sa première lettre, elle adresse un nouveau courrier, mais cette fois pas à la juge, mais à la mère d'Aurélie. « C'est moi qui ai tué Aurélie. Je vous écris car le jeudi, habituellement, les enfants auraient dû être chez leur père. Depuis, je ne cesse de faire des cauchemars. Je vous écris en espérant que cela soulagera ma conscience. Madame G. » Les gendarmes de la section de recherche de Rennes envoient les 2 enveloppes au labo, prière de chercher des traces ADN.
Section de recherche, écoute.
On a identifié un ADN, dans l'une des enveloppes.
Ah, d'accord. Vous avez une identité?
Oui. Oui, on a passé l'ADN au fichier. C'est Sébastien Beaugendre.
C'est donc lui qui, depuis le fond de sa prison, a envoyé ces 2 lettres pour se dédouaner. Et c'est confirmé par une expertise en écriture, c'est bien lui. Il est donc entendu à nouveau.
Je vous assure que je suis pas l'auteur de ces lettres. Enfin, monsieur, on retrouve votre ADN dessus, sur l'enveloppe. Et c'est votre écriture.
Ouais, mais je fais pas les mêmes fautes d'orthographe, moi, hein.
Le coco a l'air d'être un sacré manipulateur. Et c'est pas fini. 7 mois plus tard, il écrit à sa gentille voisine, vous savez, celle qui avait dit dans son témoignage que c'était un père remarquable, les madeleines au citron, vous vous souvenez? La voisine est tellement choquée par cette lettre qu'elle la transmet immédiatement aux gendarmes. « Peux-tu me fournir un alibi pour le jeudi 20 décembre? Dire que ce matin-là, tu étais avec moi de 5h30 à 6h30 et qu'on avait une relation cachée. »
La voisine est choquée parce qu'elle est mariée. Hein, elle ne peut pas faire croire qu'elle entretenait une relation avec lui. D'autant que dans cette lettre, pour crédibiliser son témoignage, il lui propose de donner des détails croustillants. Genre, on faisait l'amour dans le salon tout habillé, en lui demandant de les apprendre par cœur et de détruire le courrier. Mais maintenant qu'elle a donné cette lettre aux gendarmes, il est cuit. Il est vraiment cuit. Ce type est complètement dingue. Et c'est un sacré pervers.
La juge d'instruction ordonne alors une nouvelle perquisition à son domicile. Et dans le garage, les gendarmes tombent sur un petit atelier de bricolage qui leur avait échappé la première fois. Sur l'établi, il y a tout pour transformer des balles de pistolet d'alarme en balle qui tue. Tout pour vider une balle d'alarme de son contenu, c'est-à-dire de sa poudre, et la remplir avec des billes de roulement à billes en acier. Bref, tout pour faire une vraie balle de 9 mm avec une fausse balle. Il a fabriqué lui-même l'arme du crime. Et oui, il est mécanicien, n'oubliez pas. Et d'ailleurs, en fouillant sur son ordinateur, les gendarmes s'aperçoivent que le Zozo est allé sur tout un tas de sites qui expliquent comment fabriquer une arme à feu artisanale. Quand je pense que j'ai cru qu'il était innocent. Ainsi donc, armé de son pistolet fait maison, Sébastien Beaugendre serait parti de chez lui le 20 décembre à 5h30 du matin. Il connaissait les habitudes de sa femme. Il l'a attendue à la porte de l'arrière-cuisine. Et quand à 6h du matin, elle est sortie fumer sa clope, et il a visé l'œil, parce que sans doute savait-il que sa balle artisanale n'était pas aussi efficace, aussi puissante qu'une balle classique. Il n'était pas certain qu'elle traverse le crâne, alors il a visé l'œil à bout portant. Et ensuite, il est sans doute allé planquer son arme et en acheter une autre dans cette armurerie de Rennes. Et avec, il est allé tirer sur ce parking pour justifier la présence de poudre sur ses mains. C'est bien pensé. Ça aurait pu marcher. Mais ça n'a pas marché. Sébastien Beaugendre est donc renvoyé devant la cour d'assises de Rennes pour assassinat, c'est-à-dire meurtre avec préméditation. Il encourt donc la réclusion criminelle à perpétuité. Mais il continue de nier, absolument, totalement. Le procès s'ouvre le 21 novembre 2016. Mais le box est vide. Sébastien Beaugendre est absent. Il refuse de comparaître, et ça n'est pas la première fois, il y a déjà eu une tentative de le juger quelques semaines plus tôt, il a fait une tentative de suicide, le procès a été ajourné. Cette fois, il a dit à son avocat, « Je veux pas que mes enfants me voient menotté dans le box. De toute façon, je suis innocent. » C'est assez rare comme situation. Et ça n'est pas un cadeau pour ses avocats, ils vont devoir le défendre en son absence. Le fils aîné de Sébastien et Aurélie Beaugendre, qui avait 10 ans au moment du meurtre, est appelé à la barre. C'est lui, je vous rappelle, qui avait dit au tout début que vers 6h du matin, il avait entendu une femme crier « Tu vas crever !»
C'est une femme que vous avez entendue, jeune homme ? Ou c'est un homme ?
Bah, je sais plus. Je sais plus bien.
C'était la pièce maîtresse de la défense. Elle s'effondre. Et tous les autres témoignages jouent contre l'accusé absent. On apprend beaucoup de choses sur Sébastien Beaugendre à ce procès. Il a perdu son père à l'âge de 13 ans. Ça n'a pas été facile. Et ce que raconte son entourage, c'est qu'à partir de la mort de son père, il est devenu un tyran. Il s'est mis à jouer le rôle du père absent. Il a voulu dominer la fratrie et sa mère. Il s'est mis à agir en despote. Et dès qu'il a rencontré Aurélie, il a surinvesti la relation. Il voulait tout contrôler. C'est un portrait qui ne le sert pas, d'autant qu'il n'est pas là pour répondre. Et quand Aurélie demande le divorce, il devient incontrôlable, fou.
Ah ben un jour, je l'ai vu débarquer avec une tronçonneuse dans la cuisine. Bah, il voulait tronçonner les meubles, hein.
D'autres témoins racontent qu'il s'est mis à poser des puces dans la voiture d'Aurélie pour surveiller ses allées-venues. Et aussi à pratiquer des incantations de magie et de sorcellerie dans l'espoir qu'elle revienne. Et le déclic, c'est quand il a découvert qu'elle fréquentait un autre homme. Un soir, Aurélie l'aurait trouvé en train de bricoler sous le capot de sa voiture. Elle a découvert le lendemain qu'il avait dévissé 4 boulons du moteur. Après 5 jours d'audience, le verdict tombe. Sébastien Beaugendre est reconnu coupable. Il est condamné à 25 ans de réclusion criminelle. Il fait appel. Il est donc rejugé devant la cour d'assises de Saint-Brieuc en juin 2018. Et cette fois, il est là, dans le box. Et il maintient jusqu'au bout qu'il est innocent. Et il écope à nouveau de 25 ans de réclusion criminelle. Voilà pour le débrief de cette histoire. Je suis maintenant avec maître William Pinault du barreau de Rennes. Vous étiez maître dans ce dossier, l'avocat de la maman d'Aurélie et de sa sœur. Peut-être pour commencer, un commentaire sur cette peine de 25 ans de réclusion criminelle. Pour assassinat, il ne s'en sort pas si mal. Il encourait perpétuité. Est-ce que il n'y a pas là, au fond, la prise en compte de circonstances atténuantes qui tiennent, je ne sais pas, à son histoire personnelle, à ce père mort lorsqu'il était très jeune ?
Alors vous avez raison, il encourait en réalité, si j'ose dire, doublement perpétuité. C'était un assassinat, et à ce titre-là, il pouvait être condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, mais c'était tout simplement un meurtre sur une femme par son conjoint, et à ce titre-là, encore, aussi, il encourait la perpétuité. C'est d'ailleurs, en réalité, sous cette qualification, parce qu'elle était finalement plus simple à appréhender, qu'il était jugé devant la cour d'assises. Pour répondre à votre question, je crois que oui, sa personnalité a été largement prise en compte, mais comme toujours, on le souhaite en tout cas devant les cours d'assises. L'histoire complexe de cet homme, on y reviendra peut-être, la personnalité abandonnique qui a fait qu'il a considéré comme absolument insupportable que sa femme le quitte a été pris en compte et a sans doute pesé dans ce verdict qu'on peut considérer comme relativement clément, oui.
C'est un homme qui est abandonné en fait à plusieurs reprises. Son père meurt. Quand son père meurt, si j'ai bien compris, sa mère démissionne complètement de son rôle de mère.
C'est exactement ça. C'est un double abandon symbolique dans l'enfance. C'est l'abandon du père bien involontaire puisque celui-ci meurt accidentellement. Et puis c'est l'abandon dans la réalité de cette maman qui s'effondre, qui ne remplit plus son rôle de mère et paradoxalement dans ce vide qui est celui de cet enfant qui n'a plus ni figure paternelle ni figure maternelle, il prend une place parentale, ce garçon, et il la prend de manière totalement biaisée et sur un mode tyrannique que vous décriviez tout à l'heure.
Vos clientes, la maman d'Aurélie et sa sœur, ont pu comprendre ça, accepter ça?
Alors, vous savez, je crois que les cours d'assises ne sont jamais là pour prononcer des peines qui réparent les douleurs. Et les peines sont souvent pas à la hauteur de ce que ressentent de souffrance ceux qui ont perdu un proche dans des circonstances affreuses. C'est en tout cas ce que j'explique à mes clients, mes clientes, lorsque je les accompagne sur le banc des parties civiles. Et je crois qu'à partir du moment où elles n'avaient pas forcément beaucoup d'attentes sur cette réponse judiciaire, sur cette peine prononcée, elles n'ont été ni agréablement ni désagréablement surprises par ce verdict.
Ça m'intéresse bien ça. Ça veut dire que systématiquement, quand vous êtes avocat de partie civile, vous faites un peu de pédagogie judiciaire auprès de vos clients en leur disant ne vous attendez pas forcément à perpète, ils ne sont pas là en gros pour soigner votre chagrin.
Ça me paraît absolument essentiel que l'avocat de la partie civile fasse cela pour ses clients, pour qu'il soit préparé à la réalité de la décision judiciaire qui sera rendue, qui, encore une fois, n'est pas là pour œil pour œil, dent pour dent, selon une loi du talion qui ne fait pas partie de nos principes juridiques, réparer la souffrance. C'est là pour sanctionner un comportement infractionnel grave, pour mettre à l'abri la société de tels comportements, pour punir, pour réparer d'une façon symbolique, mais pas pour réparer la souffrance. Donc oui, j'essaie, moi, en tout cas, de leur expliquer cela.
Vous ne faites pas que de la partie civile, je le pressens comme ça. Vous êtes parfois en défense aussi. Ah non, mais il y a des avocats qui ne font que de la partie civile, qui ne sont pas à l'aise avec la défense. Et vous, on entend que vous êtes aussi parfois en défense. Le premier procès, quand même, c'est un moment étonnant. Il n'est donc pas dans le box des accusés. Il reste au centre de détention, à la maison d'arrêt où il est incarcéré. Pourquoi est-ce que le président ne le fait pas venir de force? C'est ce qu'on fait en général.
Alors, pour commencer, c'est proprement une situation sidérante. C'est-à-dire que tous les avocats et magistrats du parquet et du siège présents à cette audience rencontrent là une première. Qu'un accusé se comporte mal pendant les débats d'une cour d'assises sur plusieurs jours et qu'il soit, pendant quelques heures, une demi-journée, évacué par le président à titre de mesure de police de l'audience, et puis qu'il y revienne après avoir présenté ses excuses et on reprend le cours de l'audience, tout ça on l'a connu. Mais qu'un accusé refuse catégoriquement et totalement de sortir de sa cellule pour s'expliquer, c'est véritablement une première pour beaucoup d'entre nous. Je crois que le président ne fait pas le choix de la comparution forcée parce que il y a tout de même des épisodes de fragilité qui ont donné lieu à des passages à l'acte chez Sébastien Beaugendre tout au long de la procédure.
Tentative de suicide, hein, c'est ça?
Voilà, alors des tentatives, en tout cas des alertes qui ont inquiété sur sa santé, puisque au moment de l'instruction, à la faveur d'un interrogatoire projeté, il va effectivement ingérer des médicaments en quantité modérée, mais on a le processus évidemment de contrôle de sa situation. Est-ce qu'il est véritablement en danger? Est-ce qu'il est en état de comparaître? Et puis en général, il y a un report. C'est ce qui s'était passé à l'instruction. Et puis ça s'était passé de la même façon lors d'une première fixation de l'affaire en décembre 2015, où une nouvelle fois ingestion de médicaments, expertise médicale, qui dira que pour quelques jours, en tout cas, il est hors d'état de comparaître et il faudra de nouveau reporter le procès. Et je crois que le président, plutôt que de se retrouver confronté à un nouveau report qui serait lié à un geste auto-agressif de Sébastien Beaugendre, eh bien, fait le choix de faire passer l'audience hors sa présence pour qu'il y ait un premier jugement, et puis que peut-être c'est ce qui se passera. Après un premier verdict qui ne le satisfera pas, eh bien, il choisira de faire appel et de comparaître cette fois.
Pourquoi est-ce qu'à votre avis, maître, il ne reconnaît pas qu'il est l'assassin de sa femme? Est-ce que ses avocats, est-ce que vous avez senti ça, l'ont amené à avouer ou pas?
Alors, mes confrères ont fait, je crois, tout leur possible pour ouvrir une porte de vérité et permettre à Sébastien Beaugendre d'avouer ce meurtre, cet assassinat qui paraissait indiscutable à quiconque avait regardé le dossier de près. Pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas ouvert à cette vérité-là? D'abord parce que, je crois, c'est une personnalité extrêmement rigide. Que les fragilités d'abandon dont on a parlé, hein, d'abandon infantile qui sont les siennes, ont été protégées, la souffrance qu'il pouvait en ressentir ont été protégées par une carapace comme ça de rigidité très forte chez cet homme, qu'il s'est construit comme cela. Et que donc, chez Sébastien Beaugendre, quand il y a un avis, une position, changer d'avis et changer de position est presque consubstantiellement impossible. Ça, c'est la première explication un peu psychologique, c'est ce que diront d'ailleurs certains experts de lui. Et puis, la seconde raison, c'est l'enjeu d'image par rapport aux enfants. Il ne faut pas oublier que Sébastien Beaugendre dira à ses enfants, mais y compris les yeux dans les yeux de ceux-ci, à la cour d'assises d'appel lorsqu'il comparaîtra, il les regardera, il les appellera par leur prénom, il leur dira « Papa n'a pas tué maman ». Et il veut, Sébastien Beaugendre, conserver cette image d'innocence aux yeux de ses enfants. Et je me demande si ces absences précédentes, dans le processus judiciaire, n'étaient pas destinées qu'à permettre ce moment symbolique où il viendrait à la cour d'assises d'appel pouvoir dire à ses enfants « Je n'ai pas tué votre mère, je reste innocent ». C'est vraiment un enjeu d'image à l'égard de ses enfants. Enfin, en tout cas, c'est une des raisons, de mon point de vue, qui l'a rigidifié dans cette position de dénégation.
Vous êtes en train de me dire que des enfants qui avaient quoi, 14, 12, 11 ans, dans ces eaux-là, ont assisté au procès de leur père ayant tué leur mère, du début à la fin.
Absolument, oui.
Ça fait débat, oui, ça, dans la famille?
Alors, ça a été travaillé, réfléchi et choisi avec des équipes éducatives et d'intervenants psychologues, travailleurs sociaux qui accompagnent les enfants depuis les premiers instants de cette tragédie remontant à 2012. Donc la question de savoir s'il devait ou ne pas être là a été débriefée et il a été choisi qu'il puisse être là.
Oui, c'est pas un hasard, quoi. Ça a été travaillé,
non,
c'est l'essentiel.
Ça a été travaillé. Et bien évidemment, ils ont été protégés des moments d'évocation, des détails les plus terribles de cette affaire, tout ce qui pouvait concerner la médecine légale, la balistique, etc. Ouais. Les enfants ont été constamment cadrés. D'ailleurs, l'un de mes confrères, Fabien Lahaye du Barreau de Rennes, était à leur côté spécifiquement pour porter leur parole, très en contact avec les travailleurs sociaux et les psychologues qui accompagnaient ces enfants, tandis que j'étais, moi, l'avocat de on l'a dit, la sœur de la victime, qui est aussi celle qui les a recueillis depuis le décès de leur mère et qui les élève, absolument.
Eux, ils pensent quoi? Ils pensent que leur père a tué leur mère?
Je me garderais bien de traduire cette pensée que je connais pas et qu'ils ont conservée dans leur intime. J'étais en plus pas leur conseil, donc je ne sais pas ce qu'ils ont pu exprimer.
On me dit qu'au moment du verdict, ils sont allés embrasser leur père, c'est vrai?
Oui, bien sûr. Bien sûr, avant même le verdict, pendant le temps du délibéré, ils ont manifesté, eux, le souhait, mais leur père évidemment le manifestait tout autant, de pouvoir aller lui parler, de pouvoir l'embrasser, lui tenir les mains. Ça aussi, ça a été discuté, ça a été accompagné, et vous comprenez bien que des enfants qui n'ont plus qu'un parent parce que l'autre leur a été retiré dans les circonstances que l'on sait, il a été assassiné, eh bien se raccrochent à cet unique parent, quand bien même il est le bourreau, il est celui qui a tué leur mère. C'est un réflexe naturel, on sait même que les enfants terriblement abusés sexuellement par des pères souvent continuent à leur conserver de l'affection, ou en tout cas à dire qu'ils en ont encore, et à vouloir continuer à entretenir des liens avec eux. C'est très complexe, évidemment.
C'est complexe et passionnant. J'ai une dernière question pour vous. Est-ce qu'il vous semble que Sébastien Beaugendre est intelligent? Parce que dans ce crime, il y a une scène qui est à garder pour un téléfilm policier. Enfin, cette idée d'aller acheter a posteriori un pistolet d'alarme après le meurtre, dans une armurerie à Rennes, d'aller l'essayer sur un parking pour justifier la présence de poudre sur ses mains, c'est presque du génie.
Alors incontestablement, il a une intelligence pratique, pragmatique, adaptative, qui fonctionne très bien. Cette intelligence pratique, pragmatique, il l'a mise au service d'un projet, d'une résolution ferme. Je tuerai celle qui ne peut pas m'abandonner parce qu'elle est mon objet, elle est mon objet de rassurance et je ne supporterai pas qu'elle s'en aille. Et si elle doit s'en aller, eh bien elle disparaîtra pour tout le monde. Et dans cette obsession qui n'a cessé de croître de jour en jour dans les semaines qui précédaient la mise à exécution, eh bien effectivement il a su mettre en œuvre cette intelligence et mettre à bien son projet, le construire de manière intelligente en concevant les moyens qu'il pensait être utile pour se dédouaner ensuite. C'est finalement ce qui va l'accuser, hein, la lettre de Madame G, c'est de la maladresse aussi, hein. C'est aussi ce qui fera des traces ADN qui confirmeront les soupçons contre lui. Bref, pour répondre à votre question, c'est un garçon qui a été intelligent, élaboré dans la construction du meurtre qu'il a commis.
C'est dommage qu'il n'ait reconnu aucun des faits, parce qu'il n'a pas pu évidemment s'expliquer là-dessus. Peut-être qu'il a pêché une ou deux de ces scènes dans des séries policières.
C'est possible que le petit écran était une source d'inspiration importante pour lui, c'est possible.
J'ai adoré parler avec vous, Maître Pinault.
C'est un plaisir partagé.
Au barreau de Rennes.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.